le 16. Culture.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on s'entretient avec Mathieu Langlois du trio Trouco. Salut Mathieu, ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Eh oui, ça va bien, merci. Donc, on te reçoit là, pour la sortie de votre premier album du même nom. Donc, Trouco, écoute, avant qu'on parle de l'album, j'aimerais ça en apprendre un peu plus là, sur vous, sur le trio. C'est composé, évidemment, de toi-même, de Marino Vincent et Michael Côte-Noir.
Je veux juste te corriger, Marino Vasquez.
Ah, Vasquez, pardon. C'est ma dyslexie là, qui ressort. c'est j'aimerais ça vous entendre un peu parce que vous avez des backgrounds similaires, mais quand même assez différents. J'aimerais ça vous entendre un peu sur comment est-ce que vous vous êtes formé.
Oh, mon Dieu Seigneur. Il y a de cela environ 6 ans, moi et Michael, on est allés dans un projet. On faisait partie d'une fanfare qui jouait pour le festival de cirque qui s'appelle Carmagnol.
OK.
Et Carmagnol, ce que Michael jouait, c'était du banjo, puis moi, je jouais du sax là-dedans. Mais quand on s'est rencontrés, on avait toutes les deux amené nos guitares, puis on a eu comme un coup de foudre musical, moi et lui, on a joué de la guitare toute la fin de semaine, cette fois-là.
Excuse-moi, je veux juste, c'est Véronique, j'ai une question. J'ai entendu banjo dans une fanfare. Ça existe, du banjo dans une fanfare? Moi, je suis curieuse.
Oui, ça fait comme l'espèce, ce qu'on appelle la pompe, c'est l'espèce de, dans le fond, d'instrument percussif et rythmique en même temps.
Okay.
Donc, peut-être que dans le fond, on avait une fanfare un peu déjantée, c'est peut-être un peu hors style, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis Marino, ça a été, il vient du Mexique, ça a été un de mes premiers colocs dans mon appart en ce moment. Fait que, quand on a formé le projet, dans le fond, on s'est dit qu'on voulait faire une fusion flamenco avec le style que Michael aime bien, c'est-à-dire la musique tzigane et manouche. Mm-hmm. Et par la suite, moi, j'ai pensé à Marino tout de suite parce que c'est un expert dans les rythmes du flamenco. Donc, Marino s'est joint au projet il y a cela environ 2-3 ans.
Donc, c'est ça, votre premier album, hein, c'est 13 pièces qui nous transportent un peu partout, là, des influences évidemment européennes, sud-américaines, tu l'as mentionné, flamenco et tout, manouche. Comment, musicalement, là, cet album-là, là, à quoi, pas nécessairement à quoi on peut s'attendre, parce que je l'ai dit un peu, là, mais comment est-ce que vous avez construit un peu cet univers musical-là en juxtaposant tous ces styles-là?
Ben, Il y a deux compositeurs sur l'album, moi et Michael. Donc, c'était assez... En partant, dans le fond, on avait toutes les deux des influences différentes. Moi, je viens plus de la guitare classique / flamenco et musique du monde. Puis, comme je l'ai dit, Michael, un peu plus du jazz manouche, le jazz français là, comme Django Reinhardt et aussi toutes les belles musiques là, tziganes. La musique russe, la musique ukrainienne, bulgare. Donc, quand Michael amène une composition, moi, je m'approprie sa composition et vice-versa. Quand moi, j'apporte une composition, Michael apporte, dans le fond, sa couleur, sa saveur. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'on fusionne les styles. Mm-hmm. Mais à la base, on a un peu comme un laboratoire, dans le fond. On se rencontre souvent, moi et Michael, on est des travailleurs acharnés. Donc, on arrange, on compose et on interprète beaucoup. Et notre son s'est déterminé à travers toutes ces expérimentations-là, dans le fond, au fil des années. Ouais.
Donc, tu dirais justement que c'est comme ça que ça s'est un peu composé, l'album, de ces laboratoires-là que vous avez fait. Là. Est-ce qu'il y a eu d'autres méthodes qui ont été employées pour justement juxtaposer tous ces styles-là? Comment ces laboratoires-là, comment ça se passait?
Comme beaucoup d'artistes vous l'ont sûrement dit en entrevue, nous, la pandémie a été un moment où on s'est assis, on a fait des demandes de subventions et on a eu la chance d'avoir une subvention du CAC pour créer un album et composer un album. Donc, c'était clair que nous, on avait des pièces déjà qu'on voulait mettre sur l'album, mais après ça, on a fait une liste, puis on s'est découvert, parce que, tu sais, on s'est dit qu'est-ce qui nous manque dans le fond pour l'album. C'est un peu comme faire une recette dans le fond. On s'est dit quel ingrédient il nous manque. Tu sais, puis il nous manquait une balade, il nous manquait une pièce plus mouvementée. Puis on s'est dit aussi qu'on voulait pas juste avoir des pièces de 8 minutes avec 12 solos de guitare. Donc on est allé aussi avec beaucoup de pièces qui sont un peu plus courtes. puis un peu plus facile d'écoute. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Puis avec l'aide de beaucoup d'amis musiciens, Simon Pagé, François Jalbert, le joueur de Balalaika qui joue sur l'album, Gaspard Pandilov, c'est tous des gens qui nous ont beaucoup suggéré. Et Damien Nissenson aussi de Malasartes nous a beaucoup aidé pour savoir, parce que ça l'aide souvent en tant que musicien, des fois on est un peu dans notre processus, on est un peu on a plus un coup d'œil extérieur par rapport à toute la musique, donc ça nous a beaucoup aidé d'avoir la vie extérieure de d'autres musiciens qu'on respecte beaucoup.
Mm-hmm. Puis Mathieu, j'aimerais juste faire un petit retour aussi sur ton parcours un peu scolaire que tu as eu, qui est assez varié. En fait, tu as commencé à étudier au Cégep Saint-Laurent en guitare classique et en saxophone jazz. Et par la suite, tu as également fait un baccalauréat en interprétation jazz au saxophone à l'Université de Montréal, oui. Je voulais juste savoir, en fait, on reçoit beaucoup d'artistes ici à la station qui, eux, ont fait des études plus en jazz, avec en piano, en guitare. Qu'est-ce qui t'a orienté, toi, vers le saxophone, qui est un instrument quand même, des fois, qu'on peut laisser de côté, mais qu'est-ce qui t'a orienté vers cet instrument-là en particulier?
c'est une drôle d'histoire. C'est que j'étais en guitare classique au Cégep et à un moment donné, je me suis rendu compte que le programme de musique classique m'intéressait moins. Je me tenais avec le monde en jazz.
OK, OK.
C'était les jazzmen. Puis c'est dur avoir un band, la notion de band, de partage de musique en musique classique. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais en jazz, c'est tellement courant de former un groupe, de jammer, de donc l'interaction avec les jazzmen, pour moi, c'était clair que mon cœur était plus au jazz. Donc, je voulais absolument switcher en jazz au Cégep, mais je sais pas si vous êtes allés à l'école en musique. Ceux qui sont allés, en tout cas, vont savoir que il y a extrêmement beaucoup de guitare dans les programmes de musique, surtout en jazz. Donc, c'était pas possible pour moi de changer en guitare jazz. Surtout pas corde nylon, parce que je voulais garder l'instrument corde nylon. Donc, j'avais appris le saxophone au secondaire avec Yvan Bello. Et j'ai décidé de le ressortir du garde-robe pour m'y remettre. C'est un drôle de mot. Je sais pas si je le referais, mais je le regrette pas, ça, c'est sûr. Fallait être un peu, comment je pourrais dire, cocky et jeune pour faire ça, mais je l'ai fait et je le regrette pas, comme je dis.
Mm-hmm. Ben oui, puis justement, est-ce que tu t'étais dirigé en musique classique un peu parce que c'était le style de musique que tu écoutais à l'époque ou vraiment pas? C'était juste un univers qui te parlait?
C'était un univers qui me parlait, puis le répertoire, j'avais pas encore de groupe, puis quand tu joues seul, des pièces de guitare classique se suffisent à elles-mêmes, donc t'as l'accompagnement, t'as la mélodie, c'est quelque chose qui est super, comment je pourrais dire, qui est super gratifiant à jouer. Donc quand tu joues bien la pièce, la mélodie, dans une pièce qui tient, donc c'est pas comme travailler son jazz tout seul, puis à un moment donné, t'espères avoir un ben. Je pense que c'est pour ça. Je pense aussi que dans ma tête, il fallait avoir une formation en classique avant d'aller vers le jazz. Okay. C'est pas nécessairement vrai, mais je pense que c'est ça que j'avais en tête quand j'ai appliqué au Cégep il y a de cela plus de 20 ans.
Ouvrir le fameux plus de portes possible.
Oui, c'est ça, exact. J'ai appris des choses qui me servent encore à l'heure actuelle au Cégep. C'est vraiment, ça a été une formation formidable. Cégep Saint-Laurent.
Évidemment, vous trois, vous avez d'autres projets que Trouco, mais justement, ça se situe où dans votre ordre de priorité que ce projet-là? Quelle vie est-ce que vous voulez donner à ce projet-là? Est-ce que c'était plus une expérience un peu sur les sides ou si vraiment c'est vous voulez mettre le plus d'énergie dans ce projet-là pour le faire lever?
Ah, moi puis Michael, c'est clair, on s'en est parlé récemment d'ailleurs. On voudrait que ça devienne un peu notre travail dans le fond.
Okay.
C'est un projet qui nous représente bien. On a lancé l'album vendredi dernier à la Sala Rossa.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui sont venus malgré la température qui était pas nécessairement clémente. Là, il pleuvait à boire debout. Les gens se sont déplacés. On était extrêmement contents du résultat de l'album et du lancement et du show qu'on a donné. On a eu un bel accueil. Fait que pour nous, c'est clair que dans les mois qui suivent, on va tout faire notre possible pour pouvoir jouer le plus possible cette musique-là. Dans les festivals, dans les concerts, on rêve de jouer dans les maisons de la culture. On a intégré aussi des palmeros. C'est un truc, c'est un concept, dans le fond, flamenco. Vous avez sûrement déjà vu ça, là, c'est pour marquer le rythme, on tape dans les mains. Donc, on a ajouté au projet, qui est un trio, Puis on a aussi des Palmas sur l'album. C'est Marino qui a tout fait les percussions et tous les arrangements de percussions et de Palmas. Mais là, live, on ne pourrait pas lui demander de jouer du caron et de faire les Palmas. C'est physiquement impossible. Mm-hmm. Donc, on a demandé à Alvaro Echanove et sa copine Jean-Siane Lemieux-Sabourin de nous accompagner pour le spectacle. Et on est chanceux parce qu'Alvaro, en plus d'être un super maître du flamenco, c'est un excellent chanteur et palmeros aussi. Donc, on a un peu de chant qui est intégré au spectacle.
Très cool.
Donc, j'ai oublié c'était quoi la question, mais...
C'est vraiment... Kelvy. T'as bien répondu, puis on va falloir attendre, c'est ça, au cours des prochains mois pour voir des dates apparaître là, sur vos réseaux sociaux respectifs.
Oui.
Écoute, en terminant, Mathieu, on va aller écouter une des chansons de l'album. Je ne sais pas si tu as une préférence sur celle que tu voudrais qu'on fasse jouer.
Moi, j'aime beaucoup Guadalquivir pour une raison bien simple, c'est que Alvaro chante à la fin de la chanson.
Ok.
C'est une pièce, moi, qui puis c'est drôle parce que vous allez voir, ça termine avec seulement percussion et chant. Donc, le mouvement que je préfère de l'album, c'est vraiment sur cette pièce-là. Et je ne joue même pas Michael non plus. On a terminé la chanson et ben là, je vends un peu le punch en disant ça, mais en tout cas. Il fallait que je l'explique. Fait que c'est ça, c'est ma pièce préférée sur l'album à cause du chant d'Alvaro. En fond. Puis, comme je l'ai dit, un maître chanteur de flamenco qu'on a la chance d'avoir à Montréal.
Génial. Bien, on s'en va écouter ça. Mathieu du trio Trucco, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup d'accorder une entrevue à moi et au groupe par le fait même. Ça fait chaud au cœur. We'll be right back.
El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Cautivar.